un jeune une solution avec la mission locale du Comtat Venaissin.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission On Air. Et nous sommes aujourd'hui donc à la mission locale du Comtat Venaissin. Et nous avons à nos côtés deux jeunes qui vont donc participer à ce débat. Le sujet du jour, les dangers liés à l'usage de produits psychoactifs. Et pour m'accompagner sur cette émission, Théo. Bonjour Théo.
Bonjour.
Alors on va représenter donc les deux jeunes qui nous accompagnent. On a tout d'abord Luna. Bonjour.
Bonjour.
Alors Luna qui est donc aussi actuellement en siège au sein de la mission locale. Et nous avons aussi à nos côtés Florian. Bonjour.
Et bonjour.
Tous les deux, on va avec vous débattre sur ce sujet des produits psychoactifs. Mais tout d'abord, comme on a l'habitude de le faire au démarrage de cette émission, notamment On Air, c'est la définition des produits psychoactifs. Qu'est-ce qu'un produit psychoactif, Florian ?
Un produit psychoactif est un produit agissant en fait sur le système nerveux central qui modifie du coup les sensations, la perception, l'humeur, les sentiments et au même aussi les états de conscience et aussi la motricité.
La motricité, d'accord. Alors, petite question, est-ce que vous avez l'habitude de savoir ce que c'est qu'un produit psychoactif ? Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est ? Ou avec vos mots, est-ce que vous serez capable de donner une définition ? Peut-être on va commencer avec Luna.
Du coup, oui, pour moi, c'est quelque chose qui agit directement sur le cerveau, qui crée potentiellement des addictions et qui peut altérer la conscience de l'usager qui en prend.
Florian ?
Je suis tout à fait d'accord avec elle.
Théo, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter justement au sujet de ces produits psychoactifs ?
Oui, c'est des produits qui justement influent sur la psyché, sur le système nerveux en général, donc ça peut être en excitant le cerveau, ou justement en le tranquillisant, ou parfois en modifiant la perception des sens, etc.
Est-ce qu'on a connaissance des principales substances liées à ces produits psychoactifs ? On va les détailler peut-être. Il y en a trois grands types, il me semble.
C'est ça.
On a les perturbateurs, les dépresseurs et les stimulants.
Alors, qu'est-ce qu'on met, par exemple, dans les perturbateurs ? Qu'est-ce qui peut rentrer dans les perturbateurs ?
Il y a l'ecstasy, il y a la MDMA, il y a le LSD, toutes les substances qui vont en fait altérer la perception du monde.
Et donc, au niveau des stimulants, qu'est-ce qu'on peut retrouver ?
On a la cocaïne, l'amphétamine, la caféine.
Alors justement, on précisera un petit peu plus tard, il y a des produits qui sont illégaux dans ce qu'on a cité, et des produits qui sont autorisés. On expliquera un petit peu tout ça, la différence. Au niveau des dépresseurs, là on parlait principalement de médicaments, je pense, pas que.
On a l'alcool aussi.
L'alcool. Les médicaments psychotropes, du coup.
Le cannabis.
Le cannabis aussi, oui.
Alors, quelle est la différence entre ces trois grands thèmes ?
C'est simplement leurs effets sur, justement, le cerveau et sur, justement, leur influence sur ce dernier.
Et alors, on a cité des produits qui étaient illégaux, d'autres non. Pourquoi est-ce qu'on les classe quand même dans les produits psychoactifs ?
Parce que, peu importe qu'ils soient légaux ou pas, ils ont quand même une influence, justement, sur le cerveau et sur son fonctionnement. Donc, ils sont quand même classables dans cette catégorie.
À quel moment est-ce qu'on peut utiliser ces produits ? À quel moment on les utilise ? Alors, je tiens à préciser quand même que cette émission n'est pas là pour faire l'apologie de la drogue, des produits psychoactifs et de les consommer. Mais bien pour éclairer potentiellement nos auditeurs qui nous écoutent, pour en connaître un petit peu plus sur ces produits et bien évidemment de ne pas les utiliser. Donc pour revenir, quel moment est-ce qu'on l'utilise le plus et pourquoi est-ce que certaines personnes les utilisent d'ailleurs aussi ?
Il y a l'usage médicamenteux lors d'un suivi psychologique avec un psychiatre ou une psychologue par exemple. C'est des médicaments très addictifs qui créent des grosses dépendances.
Par exemple, il peut y avoir les neuroleptiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques et autres substances qui vont permettre justement de réguler des comportements à risque ou des troubles psychiatriques.
Et citez-moi un petit peu, par exemple, là vous avez cité de la caféine tout à l'heure, on est bien loin de tous les autres produits.
Oui, après on va dire que la caféine agit vraiment sur l'état physique de la personne et l'état même émotionnel. C'est un truc vraiment, comme ils disent, psychoactif, donc ça, on va dire que ça speed un peu les effets du cerveau sur le corps humain en général et du coup... Le caractère change, l'humeur change, les nerfs sont plus à vif et du coup c'est une substance du coup psychoactive.
Alors moi j'aurais souhaité en savoir un petit peu plus sur le secteur d'activité puisqu'on a tous entendu parler autour de la table de ces produits, mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus confrontés dans le monde du travail, donc plus confrontés à cette problématique là, qui en consomment plus donc ?
Alors oui, au niveau de l'alcool ce serait le secteur de la construction du bâtiment qui serait le plus impacté avec un taux de 32,7% de consommateurs.
Donc ça, ces chiffres viennent donc de données qui proviennent d'articles d'informations sur le site internet.
Oui, effectivement. Pour le cannabis, ce serait le domaine des arts et spectacles avec 17% de consommateurs. La cocaïne, ce serait toujours le domaine d'art et spectacle ainsi que le domaine infocom. Et pour l'ecstasy, ce serait l'hôtellerie et restauration avec 8% de consommateurs environ.
Alors, qu'est-ce qui fait que le produit est illégal ou pas ?
La loi directement. On va dire que certains produits...
Ah oui, la loi, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'un produit est classé illégal et d'autres non ?
Je pense que dû aux conséquences que ça peut engendrer, je pense.
Est-ce que tu es d'accord avec ça, Théo ?
Pour moi, en tout cas, c'est une question d'addiction et de dépendance, de degré de dépendance facile.
Et le danger qu'elle occasionne pour les autres aussi ?
Exactement. Par exemple, on va pas être dangereux de la même manière quand on prend un café que quand on va se shooter à la morphine ou quand on va fumer un pétard et qu'on va prendre le volant. Ça n'a pas rapport et c'est ce qui fait la différence entre une substance psychoactive légale et illégale.
Alors vous, autour de la table, est-ce que vous avez déjà été confronté à des personnes autour de vous qui ont pris de ces produits psychoactifs?
Oui.
Et quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que vous avez vu?
On va dire qu'un changement de comportement assez radical.
Ça dépend du produit donc lequel on prend.
Bien sûr. Après, on va dire une facilité de, on va dire, d'expression aussi, ça peut arriver. Même après, on va dire une petite perte de mobilité ou d'équilibre aussi. Oui, pas mal de choses dans ce style-là.
Des trous de mémoire aussi. Des comportements violents, des...
Il peut y avoir aussi l'apparition de troubles schizoïdes dus justement aux décompensations et aux conséquences après post-prise de cannabis ou de substances plus hallucinogènes.
Alors là, nous sommes avec donc des jeunes de la mission locale. J'ai envie de vous dire, pour moi c'est un problème de jeunes, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors oui et non, ça peut être un problème de jeunes parce qu'on va dire que la majorité des consommateurs sont souvent des jeunes.
C'est-à-dire souvent des jeunes, quelle tranche d'âge?
À peu près je dirais vers les de 15 ans à 30 ans, on va dire que la majorité sont des consommateurs. Après c'est possible aussi qu'il y ait aussi des personnes un peu plus âgées qui en consomment également, mais la majorité c'est souvent pour les jeunes.
Mais par exemple, pour l'alcool, il n'y a pas une différence de taux de prise?
On va dire que les personnes adultes et vers même plus âgées en consomment, je pense, beaucoup plus que les jeunes, ça c'est sûr. Après, ça n'empêche pas que les jeunes aussi en consomment une certaine quantité.
Alors, on veut des chiffres précis quand même. Est-ce qu'on a des données quand même un petit peu plus précises, Luna?
Oui, d'après des études, on constate que 9 jeunes, donc moins de 17 ans sur 10, ont déjà consommé de l'alcool. Et seulement 12% des jeunes n'ont jamais consommé de l'alcool, du tabac ou bien du cannabis.
Donc là, on parle de jeunes qui ont 17 ans. Hein.
Oui, de mineurs.
Donc 12% n'auraient pas consommé donc d'alcool, de tabac ou de cannabis. Ces chiffres vous surprennent?
Oui, énormément.
Oui, un peu.
Théo?
Oui, ils me surprennent.
Et est-ce que vous auriez pensé un petit peu plus? Encore moins?
Sincèrement, j'aurais pensé encore moins, parce qu'on va dire que souvent, ceux qui testent, on va dire, pour la première fois, ils sont souvent manipulés, on va dire, pas vraiment, mais influencés par les autres pour pouvoir venir à cette consommation-là.
Et comment on peut expliquer que certains jeunes, finalement, testent, mais ne vont pas plus loin, et certains jeunes testent et vont partir dans ce problématique-là?
Je penserais que ça serait plus un état psychologique aussi.
Ça y joue?
Je pense que ça y joue beaucoup.
La prise de cannabis, ça serait un état psychologique?
Bah en fait, je pense que la dépendance se fait au niveau de l'état psychologique aussi de la personne. Et ça agirait beaucoup, je pense, sur le fait d'en consommer ou pas.
Et donc un ensemble de ces produits psychoactifs, si vous êtes d'accord, serait aussi un problème psychologique, enfin pas un problème psychologique, mais la psychologie rentrerait dedans, la consommation de ces produits-là?
Oui, ça peut rentrer.
Son mode de vie peut-être aussi?
Et les fréquentations, les amis, le type de sortie qu'on exerce avec des amis, le type de lieu qu'on fréquente. Par exemple, si on va en festival ou si on traîne avec des gens qui ont tendance à consommer énormément de choses ou non.
Si on fait un travail où il y a besoin de beaucoup de concentration en permanence, beaucoup d'excitation, etc.
Également, oui.
Donc, ce n'est pas qu'un problème de jeunes. On l'entend. Ça dépend, en tout cas, les produits utilisés. On a compris que l'alcool, c'est un peu plus un problème, on va dire, d'adultes, hein. Au-delà de 30 ans et plus jeune, on va dire que c'est plutôt un problème plutôt cannabis, plutôt fumée, tabac, etc. C'est plus sur un problème de jeunes. Est-ce que pour vous c'est un sujet tabou? Est-ce que quand on vous pose la question en famille ou pas, ou entre amis, peut-être c'est plus difficile en famille, peut-être moins difficile entre amis, si on pose la question, et toi t'en as déjà consommé à 17 ans, est-ce que pour vous c'est un sujet tabou?
Pour moi non, mais j'ai conscience que pour certaines personnes ça peut l'être et je pense qu'il faudrait relever un peu les tabous pour pouvoir en parler plus et aider réellement les personnes qui souffrent d'addiction et qui leur posent de réels problèmes.
Florian?
Moi je suis un peu d'accord avec ce que dit Luna. Après on va dire c'est plus facile d'en parler avec des amis, on va dire que voilà, avec la famille c'est un peu plus compliqué selon notre milieu social, tout ça, des fois ça peut être un peu plus compliqué, donc c'est plus facile d'en parler avec les amis, mais après on va dire que c'est bien aussi d'en parler avec la famille parce que c'est plus facile pour qu'on puisse être aidé.
Théo, est-ce que pour toi c'est un sujet tabou?
Dans ma famille non, en tout cas, mais je comprends tout à fait que dans certaines familles, je pense par exemple à des milieux sociaux qui sont un peu plus entre guillemets bourgeois, ou alors ceux qui sont d'appartenance religieuse religieuse, c'est plus compliqué d'en parler parce que justement il y a un certain tabou à ce niveau-là, au niveau des substances qui altèrent la conscience, etc. Mais c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas que la famille à qui on peut en parler, il y a les amis, il y a des associations qui sont spécialisées là-dedans, il y a des numéros verts.
Je voudrais qu'on reparle un petit peu des dangers liés à ces produits psychoactifs. Je voudrais qu'on les rappelle. Quelqu'un qui consomme du cannabis, qu'est-ce qu'il risque? Enfin, pas au niveau pénal, on en parlera tout à l'heure, mais surtout, qu'est-ce que cela produit et quel risque ça occasionne aussi pour les autres? Mais j'ai parlé cannabis, mais il n'y a pas que cannabis qui a été cité comme drogue, notamment perturbateur, stimulant et dépresseur. Dans ces trois thématiques-là, quels sont les risques les plus connus et les plus courants pour vous, enfin pour la personne qui en consomme et pour les autres?
Pour la personne qui en consomme, on va dire que c'est un peu une perte, il a une perte d'attention assez élevée, du coup, un manque d'attention envers ce qui l'entoure, un manque de réflexion aussi par rapport aux actions qu'il commet, par exemple. Il a fumé du cannabis, il prend sa voiture, ça peut être vraiment très dangereux pour les usagers autour de lui. Et après, c'est à peu près la même chose aussi pour le cannabis, pour la cocaïne aussi. C'est vraiment un excitant, du coup, la personne s'exciterait vraiment beaucoup. Elle pourrait devenir incontrôlable, venir à agresser peut-être d'autres personnes, donc ça peut être aussi très dangereux.
Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une très courte pause sur l'antenne d'RTVFM. On va se retrouver pour la suite de cette émission On Air, consacrée aujourd'hui donc aux dangers liés à l'usage de produits psychoactifs. Et on parlera donc dans quelques instants de ces risques au niveau pénal. Qu'est-ce qu'on risque concrètement si on consomme donc de ces produits et notamment sur les jeunes, enfin en tout cas sur les personnes qui ont expérimenté un petit peu ça. Combien ont expérimenté, combien ont testé ces drogues? Vous allez voir, ce sont des chiffres assez affolants. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTVFM. À tout de suite.
I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
De retour sur l'antenne d'RTVFM dans l'émission On Air avec toujours les jeunes de la mission locale du Comtat Venaissin. Et aujourd'hui, on parle des dangers liés à l'usage de produits psychoactifs. À mes côtés, donc, toujours Luna, Florian et Théo. Parlons un petit peu maintenant, notamment, de ces risques au niveau pénal. Puisque, bien sûr, on parle de consommation, tout à l'heure on disait que c'est pas très bien, etc. Mais qu'est-ce qu'on risque concrètement si on consomme des produits psychoactifs? Alors, je parle de produits psychoactifs parce qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on risque pénalement?
Pénalement, alors, on peut risquer du coup jusqu'à un an de prison pour tous ceux qui ont 18 ans ou plus, avec une amende de 3 750 €.
Alors, dans quel cadre? Si on se balade dans la rue, si on est en voiture?
Alors, tout dépend. Si on se balade dans la rue, mais qu'on a par exemple fumé du cannabis, on peut être contrôlé, mais on peut, si ça fait partie de notre consommation personnelle et que ce n'est pas une grosse quantité, on peut être juste averti, mais pas être amendé ni arrêté. Après, si c'est par exemple si c'est en voiture, on sera directement immobilisé avec un retrait de permis immédiat et toutes les amendes.
Alors, des amendes, justement, on a un peu des tarifs sur les amendes?
Oui, bah c'est à peu près du coup le tarif de 3 750 € pour l'amende avec du coup possibilité d'un an d'emprisonnement.
D'autres risques au niveau pénal de consommer
Alors pour le niveau pénal, on a aussi pour les plus jeunes du coup de 14 à 16 ans, ils peuvent aussi avoir 6 mois d'emprisonnement avec une amende du coup qui sera du coup payée par les parents. Du coup.
Parlons un peu expérimentation sur l'antenne d'RTVFM avec notamment ces chiffres sur la jeunesse française qui aurait essayé, en tout cas avant 20 ans, régulièrement, des produits psychoactifs.
Alors oui, on en a beaucoup au niveau cannabis aussi, on a 1,3 million de consommateurs réguliers et 18 millions du coup d'expérimentateurs dans le cannabis. Pour la MDMA, on a à peu près 1,9 million d'expérimentateurs aussi en France pour les 18 à 25 ans.
Voilà, donc tout ça, ce sont des chiffres donc pour la France. Est-ce que vous trouvez que ce sont des chiffres importants, Luna?
Oui, je trouve que ce sont des chiffres importants.
Est-ce que vous auriez pensé autant, Théo?
Non, moi je m'attendais carrément à moins, mais apparemment tout est possible.
Parlons un petit peu aussi concrètement des produits. Qu'est-ce qui fait qu'on est dépendant avec ces produits? Par exemple, le cas du cannabis, de la caféine, du tabac, et finalement c'est aussi un de ces dangers.
Alors pour ce qui est du cannabis, en fait, c'est tout dépend les molécules qui en fait le composent. La molécule qui rend le plus dépendant, c'est du coup le THC. Et du coup, plus il y a de THC dans le cannabis, plus en fait ça rend les personnes du coup dépendantes. Ça crée une énorme dépendance. Et après aussi tout ce qui est pour le tabac, par exemple la nicotine aussi. Plus il y a de nicotine aussi, plus ça rendra les personnes dépendantes.
Théo, d'accord avec ces propos?
Ah oui, je suis d'accord. Par exemple, le THC, donc tétrahydrocannabidiol, ça en fait se met à la place d'un neurotransmetteur qui va se mettre dans les neurones et qui du coup va donner la sensation de plaisir. C'est ce qui va donner aussi cet effet de dépendance au fur et à mesure, c'est qu'on va en demander plus à chaque fois pour avoir cette petite sensation de bien-être. Pareil avec la nicotine qui se fixe sur à peu près les mêmes neurotransmetteurs. Pour la caféine, ça remplace l'hormone de la fatigue qui justement empêche la sensation de fatigue d'apparaître, etc.
Parlons maintenant des numéros verts, puisqu'il est important de pouvoir échanger quand on a des difficultés avec ces produits psychoactifs. Il existe des numéros verts en France où on peut avoir une oreille attentive, j'ai envie de dire, avec des horaires importants. Quels sont ces numéros verts?
On peut contacter le 0800 23 13 13 ou alors le 01 70 23 13 13.
Alors ça s'appelle comment? Quel numéro vert? C'est drogue service?
Drogue info.
Ouais, là donc on va vous apporter peut-être, comme je disais, une oreille attentive, on va vous renseigner comment faire, quels sont les éléments un petit peu qu'on veut avoir quand on appelle ce numéro.
Ça va être des informations par rapport à la dangerosité, par rapport aux conduites addictives et comment les éviter ou comment essayer d'en sortir une fois qu'on est dedans, et quelques endroits où aller en physique pour justement se faire aider si jamais on est dans des conduites addictives justement.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci Luna, merci Florian et merci Théo. Je rappelle que cette émission était consacrée donc aux dangers liés à l'usage de produits psychoactifs. On espère qu'on vous a un petit peu pu se donner d'informations à ce sujet. Et donc on rappelle que cette émission, bien sûr, avait pour but de vous sensibiliser à la non-utilisation, bien sûr, de ces produits psychoactifs. Merci à tous les trois. À très vite.
Merci.
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 La mission locale du Comtat Venaissin accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sur les champs de la formation, l'emploi, la citoyenneté, la mobilité, le logement et la santé.